Troisième partie. Dès l'aube du jour qui avait suivi son entrevue avec Jem Sharper, John Swabin s'était mis en campagne. Déguisé et grimé comme seul il savait le faire, le détective cambrioleur avait été se poster en face de la maison du directeur de la Estrella de Plata. Sans qu'il s'en doutât le moindrement, Jem Sharper n'avait plus fait le moindre pas sans être suivi. Derrière lui, John Swabin était entré dans le bureau du télégraphe et, accoudé contre le guichet, avait lu les deux dépêches envoyées par Sharper au directeur de la Southern Pacific Railway et au sous-directeur de la Estrella de Plata. Bien que ces deux télégrammes fussent rédigés en langage chiffré, John Swabin, qui s'y connaissait en cryptographie, n'avait eu aucune peine à les traduire. Il avait ensuite gagné le guichet du télégraphe et avait à son tour lancé une dépêche à destination de San Francisco, priant son lieutenant Reno de partir aussitôt pour Camoron, état d'Arizona du Mexique, avec deux hommes déterminés et d'y attendre ses instructions. En sortant de la poste, John Swabin se rendit chez lui où l'attendait Filmer. « Victoire, dit-il, le Dean Sharper vient de télégraphier à la fonderie pour ordonner d'expédier à San Francisco tout l'argent qui est dans les caves de la Estrella. Oh, il faut croire qu'il y en a beaucoup, puisqu'il a commandé un wagon d'une capacité de 25 tonnes au directeur de la Southern Pacific. Comme il existe des wagons de 20 tonnes, c'est donc que l'argent qui va être expédié dépasse ce poids. » « Oh, il y a de quoi vous dédommager, et moi aussi. » Ainsi que je le prévoyais, Sharper a pris peur. Et il est tombé dans le piège que je lui tendais et n'a plus qu'une idée, celle de mettre les lingots de la Estrella en lieu sûr. Certes, ils seront sûretés une fois dans mes coffres, n'est-ce pas? Enfin, le plus fort est fait, et il ne reste plus qu'à nous emparer du wagon. Un wagon de 25 tonnes ? S'écria Filmer, qui, aux premières paroles de John Swabin, s'était pris d'espoir, mais s'était rembruni en entendant la suite. « Oh, je sais bien que vous êtes habile, mais 25 000 kilos ne s'enlèvent pas aussi facilement qu'un bijou. »« Vous raisonnez mal, jeune homme. Un bijou est aussi difficile à enlever qu'une montagne. Ce n'est qu'une question de proportion. » Une once d'or est, mettons, 10 000 fois plus petite et moins embarrassante qu'un bloc d'argent, mais elle est 10 000 fois mieux gardée. Le wagon de Sharper est déjà à nous. C'est moi qui vous le dis. Et maintenant, nous allons déjeuner vite. Il est 3 heures, dans 47 minutes, nous partons pour Denver, Brinton, Nogrades. Plaît-il ? Fit Filmer ahuri. « Oui, nous allons prendre livraison du wagon. Je crois que ce sera l'affaire de 5 jours. Sans compter que je suis pressé et que d'autres entreprises m'appellent à Frisco. » 47 minutes plus tard, comme l'avait dit John Swabin, le détective cambrioleur et son compagnon roulaient à 80 miles à l'heure dans la direction de Saint-Louis. Ils filèrent sans arrêt, sautant d'un train dans l'autre, jusqu'à la petite station de Nogrades, qui se trouve à la frontière mexico-américaine, et descendirent dans une sorte d'auberge, si l'on peut appeler ainsi une bicoque lépreuse et branlante, servant d'abri aux muletiers et aux contrebandiers du voisinage. John Swabin, avec sa philosophie coutumière, s'accommoda de ce gîte inconfortable. Il avait profité des loisirs que lui laissait son voyage pour se déguiser en gaucho mexicain d'une façon si parfaite que Filmer hésitait chaque fois avant de lui adresser la parole. À peine arrivé à Nogrades, son premier soin fut de retourner à la gare. Sans en avoir l'air, il eut habilement interrogé les employés et apprit d'eux qu'un wagon d'acier vide venant de San Francisco avait passé à Nogrades l'avant-veille et devait repasser le lendemain, plein de barres d'argent provenant de la fonderie de Magdalena, situé à quelque 150 km dans le sud. Ah, c'est bien ce que je pensais, se dit George Robbins. J'ai 48 heures d'avance. C'est plus que suffisant. Ce petit filmeur, qui est le meilleur garçon du monde, mais n'a aucune disposition pour devenir mon élève, va devoir m'aider. Oh, d'ici 3 jours, l'argent de la Estrella del Plata est à nous. Le détective cambrioleur regagna son auberge où il avait laissé Filmer. Il le rejoignit dans sa chambre et, pendant près de 2 heures, lui expliqua ce qu'il attendait de lui. Filmer, dûment chapitré, John Robbins alla s'attabler dans une posada située en face de la petite gare et d'où lui était facile de surveiller les allées et venues du personnel de la station. Lequel personnel se composait du chef de gare, le seigneur Alonso Ramon, et d'un indien abêti par l'alcool qui servait d'homme d'équipe et d'aiguilleur, car 6 embranchements partaient de Nogales vers Magdalena, Benson, Arizpe, Hidalves, Camorón et Yalto. S'étant ainsi renseigné sur ce qu'il devait savoir, John Robbins passa le reste de sa journée enfermé dans sa chambre où il effectua une mystérieuse besogne. Vers 2 heures du matin, alors que tout dormait dans la petite gare, le détective cambrioleur, sans faire aucun bruit et avec l'habileté que donne une longue habitude, força sans peine la porte du bureau du seigneur Alonso et, tout tranquillement, à la lueur d'une lanterne sourde, il examina les différents papiers épars un peu partout. Après quelques minutes de recherche, il trouva enfin la pièce qu'il désirait. Un ordre de service venant de San Francisco et signé du directeur de la Pacific Railroad, ordonnant au chef de gare de Longades d'aiguiller le train venant de Magdalena avec le wagon d'argent dans la direction de Benson, en Arizona. John Robbins eut un rire muet. Il tira de sa poche un imprimé absolument semblable, sauf que la direction dans laquelle devait être dirigé le train en question était Camorón, Mexique, à l'ordre de service du directeur de la Pacifique. Même signature, même papier, il le posa sur la table à la place du véritable et empocha ce dernier. Sa lanterne sourde éteinte, il sortit, referma la porte après avoir remis tout en place et regagna son hôtel sans encombre. Le surlendemain, à l'aube, arriva le train venant de Magdalena. Le seigneur Alonso, qui ne s'était aperçu de rien, voulut par acquit de conscience relire l'ordre de service avant de faire aiguiller le train vers Benson. Il s'arrêta ahuri. L'ordre portait d'envoyer le train vers Camorón. Pourtant, il lui semblait se souvenir d'avoir lu Benson. Stupéfait, il relut 3, 4 fois le papier officiel. Nulle trace de grattage ou de surcharge. Les signatures étaient conformes. Le malheureux chef de gare crut devenir fou. L'ordre était formel, cependant, mais que faire? D'autant plus qu'il se souvenait parfaitement avoir reçu un autre ordre, l'avisant du prochain retour du wagon d'argent, lequel devait être expédié à San Francisco, c'est-à-dire vers Benson. Sur sa machine, le mécanicien du train remorquant le wagon d'argent, ne comprenant rien à cet arrêt prolongé, commençait à s'impatienter. Eh bien, grommela-t-il, on part pas. Une seconde, cria Alonso. Épris d'une idée subite, il se précipita vers l'appareil télégraphique afin de demander des instructions au chef de gare de Magdalena, son supérieur hiérarchique. Que voulez-vous que je vous dise? Répondit celui-ci presque aussitôt. Il n'y a pas à discuter si vous ne voulez pas être prévoqué. Vous avez un ordre de service, conformez-vous-y. Le wagon est bien à destination de Frisco, mais. Peut-être que le directeur de la compagnie a ses raisons pour le faire passer par Cameron. Il veut sans doute dépister les voleurs. Allez, obéissez. Du coup, Alonso fut convaincu. Il ne se doutait pas que, une heure auparavant, John Sobbins avait tout bonnement coupé le fil télégraphique reliant la gare de Nogales à celle de Magdalena et avait fait aboutir un appareil portatif installé dans un fourré du bois voisin et devant lequel se tenait George Filmer. Oh, aiguillez vers Cameron, ordonna Alonso. Comment, Cameron? S'écria le mécanicien, stupéfait. Mais nous allons à Frisco. Oh, méfiez-vous de ce qui vous regarde, répondit Alonso Rogue. J'ai des ordres et signés du directeur de la compagnie encore. Allez, voulez-vous les voir? Non, non, ça va bien, murmura le mécanicien abasourdi. Le chef de gare siffla, la locomotive et à sa suite le train obliqua vers la gauche et progressivement prit de la vitesse et disparut à l'horizon. Sous un wagon, couché entre le plancher et la bogie, John Chauvin s'était dissimulé. Il exultait. Toutes ses prévisions s'étaient réalisées. Dans 3 heures au plus tard, le train allait être arrêté dans la tranchée de Jarez par Reynaud et ses hommes qu'il avait prévenus la veille par dépêche, et il ne resterait plus qu'à mettre le butin en sûreté. Lourdement chargé, le train avançait à une allure de tortue. Sous son wagon, John Sobbins trouvait le temps long. C'est à peine si le convoi avançait à raison de 20 km à l'heure. Alsan, Clembresse, Las Marismas furent dépassés et enfin le train s'engagea dans la tranchée de Jarez, longue de 27 km, au milieu de laquelle Reynaud et ses deux compagnons devaient attendre le train et l'arrêter. John Robbins compta les minutes. Tout à coup, une détonation ébranla l'air et presque en même temps, les freins grincèrent. Le train s'arrêta et brusquement, que par l'effet de la secousse, le détective cambrioleur faillit être précipité sous les roues. C'est à grand-peine qu'il put se retenir. Dans la tranchée, un tonnerre de vociférations, crié en espagnol, retentit. Halte là! Stop ou la mort! À l'assaut, patriotes, le train est à nous, victoire! Le convoi s'était arrêté. John Strobis, lestement, sauta sur la voie et aperçut plusieurs centaines de Mexicains armés de carabines qui de tous côtés assaillaient le train. John Strobis réprima un cri de rage, mais il se dompta aussitôt. Après tout, murmura-t-il, ce ne sont que des concurrents. Voyons un peu. Le long des flancs de la tranchée, c'était un fouillis inextricable de cactus et de nopals aux tiges épineuses. Hardiment, John Sobbins se glissa à travers ces arbustes. Dissimulé au milieu d'un fourré de nopals, il se rendit un compte exact de ce qu'étaient ceux qu'il avait appelés ses concurrents. Les assaillants du train, bien que vêtus de costumes hétéroclites, portaient tous à leur son, mort en héros, un énorme cocarde verte et rouge, en signe de ralliement, évidemment. Ils devaient connaître la nature du contenu du wagon convoité par John Sobbins, car, dédaignant tout le reste du train, ils avaient aussitôt couru vers le véhicule rempli d'argent. Mais ils ne l'ouvrirent pas, au grand contentement du détective cambrioleur, car un individu haut de 6 pieds, étant grimpé sur le toit du wagon, cria « Viva Dios, cet argent est pour la cause! Mort et damnation au premier qui touche! » Ah, voilà qui est bien parlé, pensa John Robbins. Garde ces bonnes dispositions, mon bonhomme. Je compte bien t'enlever d'ici peu le souci de ce wagon. C'est moi la cause. » De quelle cause parlait le Mexicain? John Strobin jugea qu'il était inutile pour lui de le savoir. Il ne tenait pas à partager le sort du mécanicien, du chauffeur et du chef de train qui gisait massacré en travers de la voie. Grâce à la précaution qu'il avait prise de se déguiser en gaucho mexicain, son costume différait peu de celui des assaillants du train. Il avisa un de ces derniers, l'assomma d'un coup de pierre sur le crâne et lui prit son chapeau. S'étant ainsi mis à l'unisson, nul ne le remarqua lorsqu'il apparut sur le bord supérieur de la tranchée. Sans affectation, il s'éloigna et lorsqu'il se crut hors de vue, il se mit à courir. « Oh, quelle histoire » pensait-il. « Voilà ce que c'est que de vouloir aider les gens. Ça ne m'arrivera plus. Le pauvre Reynaud et les hommes doivent se faire vieux. Et dire que tout a recommencé, oh, une affaire si bien combinée. » 2 heures durant, John Sobin bondit à travers les halliers, sans se soucier des lianes dont les épines traversaient le coutil de ses vêtements, ni des pierres sur lesquelles il trébuchait à chaque pas. Enfin, haletant, hors d'haleine, le visage et les mains ensanglantés, il atteignit le milieu de la tranchée où Reynaud et les deux hommes attendaient le passage du train. En voyant arriver John Sobin, Reynaud, de surprise, leva les bras vers le ciel. « Oui, c'est moi !» fit brièvement le détective cambrioleur. « Une bande de Mexicains vient de s'emparer du train à 10 kilomètres d'ici, ou à peu près. J'étais caché sous le wagon. Quelle guigne !»«
Oui, c'est dommage de rater une si belle affaire !» grogna Reynaud. « 22 000 kilos d'argent, enfin !»
Mais l'affaire n'est pas ratée, mais seulement retardée. Allez, en route, nous allons à Cameroun. » Sans demander aucune explication, les trois hommes suivirent John Strobins. Le détective cambrioleur semblait avoir repris des forces en ce court arrêt de 3 minutes. Il mena ses compagnons au village le plus proche, y acheta 4 chevaux, et au grand galop, la petite troupe se remit en route. À la nuit, les 4 hommes s'arrêtèrent dans la petite bourgade de Chris Bacal, où, tout en dînant dans une rustique posada, ils apprirent que les gens qui avaient arrêté le train n'étaient ni plus ni moins que l'avant-garde de la petite armée du général révolutionnaire Feliciano Lobo, lequel venait de soulever tout le nord de l'état de Sonora contre le gouvernement mexicain. John Strobins ayant payé l'addition, les 4 hommes se remirent en selle. Ils galopèrent toute la nuit et atteignirent Cameroun un peu avant l'aube. Leur premier soin fut de chercher une auberge dans laquelle ils se reposèrent quelques heures. « Mais à l'œuvre maintenant !» dit John Strobins à Reynaud. « Nous n'avons pas de temps à perdre. »« Bon, le général Lobo n'a pas encore gagné la partie. » Je m'en vais aussitôt télégraphier la nouvelle de son exploit au consul américain de Hermosillo, ainsi qu'aux principaux journaux de New York. Le gouvernement américain ne laissera pas l'affaire sans sanction. Pense un peu, Reynaud, que ce Lobo s'est emparé d'un wagon d'argent américain. Tu comprends? D'ailleurs, Sharper, qui doit être à Frisco, va faire du bruit comme 4. Oui, mais... « Quoi? Le gouvernement de Washington? Il menacera celui de Mexico et les 2 Mexicains réguliers reprendront le wagon à Lobo. Celui-ci d'ailleurs, plutôt que de s'attirer l'inimitié du gouvernement américain, qui pourrait l'empêcher de recevoir des munitions par la frontière, n'opposera pas grande résistance. Après quoi, je vais être pendu si Sharper ne vient pas lui-même charger son wagon. » « Mais nous ne l'attendrons pas. »« Alors que veux-tu faire ?»« Bon, tu le verras, curieux. Pour l'instant, repose-toi avec tes hommes. » On dit la guardiente, fameuse à Cameroun. « Assurant, je me charge du reste. » Pendant toute la matinée, John Sobins, qui portait le bras en écharpe, comme s'il eût été blessé, télégraphia un peu partout au gouverneur de la Sonora, à l'ambassade américaine à Mexico, au consul américain à Hermosillo, nouvelle de l'attaque du train d'argent, affirmant que lui, pauvre paysan, avait été molesté par les insurgés. Le télégraphiste dut frémir en transmettant ces dépêches remplies de détails horrifiques et sensationnels destinés à émouvoir l'opinion américaine. Ce qui coûta près de $1 000 au détective cambrioleur. Mais le lendemain, il eut la joie, sans mélange, d'apprendre que le gouvernement mexicain, ayant reçu une note énergique de l'ambassadeur américain à Mexico, se décidait à intervenir rudement, car les Américains ne parlaient rien moins que d'envoyer des troupes au Mexique. Cette nouvelle confirmée raréfia le nombre des partisans du général Lobo, qui craignaient avec raison d'être pris entre les troupes régulières mexicaines et les soldats américains. D'autre part, le général Lobo avait mécontenté fortement ses fidèles en leur défendant de s'approcher du précieux wagon qu'il faisait surveiller par une cinquantaine de gigantesques et farouches indiens à sa dévotion, en attendant qu'arrivassent les voitures qu'il avait fait réquisitionner pour enlever et mettre en sûreté les lingots contenus dans le wagon. Hélas, ce furent les troupes mexicaines qui arrivèrent. 7 jours après l'arrivée de John Stroobins à Camoron, le général Lobo, surpris au milieu de la nuit par une armée 3 fois plus nombreuse que la sienne, était fait prisonnier avec tous les siens et fusillé au lever du soleil. La dépêche par laquelle John Stroobins apprit cette agréable nouvelle ajoutait que le wagon d'argent était intact et qu'il allait être envoyé aux États-Unis sous bonne escorte. « Et quand je te le disais, » déclara le détective cambrioleur à Renault, « le wagon est à nous maintenant. Selon les chevaux et filons. Oh, la dépêche dit que le train part demain soir. Juste le temps d'envoyer une locomotive de Benson, car les insurgés ont, paraît-il, abîmé l'autre, les imbéciles. Pauvre général Lobo, il est mieux fait de s'entendre avec moi. Allez, en route. » Quand même, je me demande ce qu'est devenu ce pauvre filmeur. Il devait nous rejoindre ici. Oh, on l'a peut-être fusillé, après tout. Au triple galop de leurs chevaux, John Stroobins et ses compagnons se dirigèrent vers le milieu de la tranchée de Jarez, où avait été assailli le train. Ils y arrivèrent dans la nuit, après avoir crevé leur coursier. Le train était là, intact, séparé de la locomotive qui, brusquement arrêtée par le mécanicien affolé, avait déraillé une deuxième fois et s'était couché en travers de la voie. Un régiment de fantassins mexicains, campé des deux côtés de la tranchée, surveillait le précieux wagon. Ben, « Il ne reste plus qu'à attendre, » fit John Stroobins. Toi, Renaud, tu vas rester avec moi pour jouer une petite comédie que j'ai préparée. Et vous autres, Ralph et Alexander, vous pouvez repartir pour Frisco. L'affaire est enlevée. Allez, voilà chacun $1 000. Les deux hommes, sans se permettre la moindre interrogation, empochèrent les billets de banque et s'éloignèrent. Viens, Renaud, fit John Stroobins. La locomotive envoyée de Benson arriva dans la soirée alors qu'il faisait déjà nuit. Le wagon d'argent y fut aussitôt attelé, et derrière lui, 2 grands fourgons contenant chacun 35 réguliers mexicains commandés par un capitaine. Ce petit convoi s'ébranla aussitôt. Sous les bogies du wagon d'argent, John Stroobins et Renault étaient agrippés, attendant le moment propice pour exécuter le hardi projet conçu par le détective cambrioleur. Comme la voie était affaissée par endroits, le train n'avançait que lentement. À 4 heures du matin, il atteignit Nogales et aussitôt John Stroobins et Renault sautèrent à terre. Dans l'obscurité que dissipaient de loin en loin quelques lanternes fixées sur des pieux, les deux hommes se dirigèrent vers la locomotive. Le chauffeur, debout sur le tender, surveillait le robinet par lequel une trombe d'eau coulait d'une citerne érigé sur le bord de la voie dans le réservoir de route. Le mécanicien, accoudé à la rambarde d'acier, fumait une cigarette pour se délasser en attendant le départ. John Slovis et Renault arrivèrent à contre-voie jusque dans l'étroite échelle de fer accédant à la plateforme de la machine. John Slovis, leste comme un chat, escalada d'un bond les quatre échelons, sauta sur le charbon emplissant le tender et par derrière saisit le chauffeur par le cou. L'homme, suffoqué, s'affaissa sans avoir pu crier. John Slovis, le maintenant sous son genou, lui serra la gorge d'une main et de l'autre le garrotta avec une dextérité telle que le pauvre chauffeur fut ficelé de la tête aux pieds avant de savoir exactement ce qui lui arrivait. Le mécanicien, au bruit fait par son compagnon en tombant, avait tourné la tête. Il voulut crier juste au moment où Renault, arrivant derrière John Slovis, lui passait un foulard de soie autour du cou. La respiration coupée, il glissa sur le parquet de tôle et fut aussitôt ligoté. Cette scène n'avait pas duré 20 secondes. Les deux victimes, bâillonnées et couchées parmi le charbon du tender, John Slovis et Renault, s'étant coiffés des casquettes du chauffeur et du mécanicien, prirent leur place. John Slovis s'occupa de la machine et Renault du robinet de la citerne. Le réservoir du tender étant plein, il le ferma, puis, sur l'ordre de John Slovis, il engouffra du charbon dans le fourneau de la locomotive. Sur le quai de la gare, nul ne s'était aperçu de rien. Quelques soldats couraient dans l'obscurité autour d'un marchand d'aguardiente qui était accouru à la nouvelle de l'arrivée du train. Un coup de sifflet de leur chef les fit regagner leur wagon. « Êtes-vous prêt, mécanicien ?» cria le signor Alonso. « Yes !» répondit John Slovis. « En route, alors ?» Le chef de gare siffla. John Slovis fit mugir la sirène de la locomotive et d'un geste précis ouvrit le registre de vapeur. Lentement, la lourde machine s'ébranla, entraînant le reste du convoi. « Eh bien, je crois maintenant, mon cher Renault, que le wagon d'argent est à nous !» murmura le détective cambrioleur. « Mais les soldats, oh, laisse-moi faire, je n'oublie pas, c'est brave !»
Le train emportant, James Sharper traversa sans incident toute la Californie et atteignit Gila City, où Sharper apprit par un télégramme que le wagon d'argent, escorté par deux compagnies de soldats mexicains, venait d'arriver à Nogales, d'où il allait repartir une heure plus tard, juste le temps de ravitailler la locomotive. À la pensée que 80 miles à peine le séparaient de son trésor, si providentiellement récupéré, James Sharper pensa défaillir de joie. Bien que la nuit déjà fût venue, il ordonna au mécanicien de son train de repartir aussitôt pour aller à la rencontre du précieux wagon. Malgré tout, le directeur de la Estrella de Plata pensait qu'il ne serait tranquille que lorsqu'il aurait vu de ses yeux et touché de ses mains les scellés de plomb fermant les ouvertures du wagon en fermant la plus grande partie de sa fortune. Maugréant, le mécanicien qui comptait se reposer à Gila City remit sa machine en marche. Le minuscule train, à vive allure, quitta la gare. Dans son wagon-salon, James Sharper, debout derrière une fenêtre, regardait le paysage défiler devant lui. Il lui semblait que le train n'avançait pas. Et pourtant, le mécanicien, ayant hâte d'en finir, avait mis sa machine à toute vitesse, soit 82 miles à l'heure, mais Sharper comptait les secondes. Le paysage, qui était plat autour de Gila City, changea bientôt. Le train entra dans une profonde tranchée et force fut à Sharper de quitter son poste d'observation, puisqu'il n'y avait plus rien à voir. Les tranchées aboutissaient à un tunnel. Le train s'y engouffra. Pour calmer son impatience, le directeur de la Estrella de Plata alluma un cigare. Ce tunnel n'en finissait pas. Et James Harper allait jeter son cigare arrivé au bout, lorsque tout à coup, il entendit le grincement des freins sur les roues et une violente secousse faillit le faire choir. Stupéfait et furieux, il put pourtant se retenir au bras de son fauteuil et se redressa. Progressivement, son train s'arrêtait, cependant que le sifflet de la locomotive déchirait l'air et résonnait sinistrement sous la voûte du tunnel. Après avoir parcouru encore 300 mètres environ, le train stoppa. Harper, d'un geste rageur, saisit la sonnette d'alarme et la tira si fort que la poignée arrachée lui resta dans la main. « Brute infâme de mécanicien! Mais si je ne fais pas flanquer à la porte ce sinistre idiot, je vais être pendu! Stoppé au milieu d'un tunnel, il est fou, je crois bien !» Et Harper, au paroxysme de la fureur, bondit vers la porte de son wagon pour sauter sur la voie et demander quelques explications. Mais avant qu'il eût atteint le marchepied, le sifflet de la locomotive cessa de hurler et le directeur de la Estrella de Plata put entendre distinctement une formidable clameur poussée par 50 voix humaines. Il frissonna, saisi d'un vague pressentiment, et sauta à terre. Et dans le tunnel, les cris continuaient. Harper courut vers la locomotive, et lorsque ses yeux se furent un peu accoutumés à l'obscurité, il aperçut à contre-voie deux grands fourgons auxquels, par précaution, on avait accroché des lanternes rouges. Autour des deux véhicules, une cinquantaine d'hommes vociféraient en espagnol. Deux d'entre eux brandissaient des lampes à pétrole décrochées du plafond des fourgons qu'elles servaient à éclairer. Leur lueur incertaine permit à Harper de reconnaître que les occupants des fourgons n'étaient autres que les soldats mexicains. Les boutons de cuivre de leurs uniformes brillaient dans les ténèbres. Des soldats mexicains. Oh ! Harper entrevit la vérité. John Sobins. C'étaient des soldats mexicains qui escortaient le wagon d'argent, et c'était eux sans doute qu'il avait vu devant lui. Il accéléra sa course et faillit trébucher en heurtant un des porteurs de lampes en train de s'expliquer avec le mécanicien. « Quoi ? Qu'arrive-t-il ? » s'écria le directeur de la Estrella de Plata. « Ce train, c'est le mien ! Mon wagon, où est-il ? Pourquoi vous êtes-vous arrêté au milieu du tunnel ?» Le porteur de la lampe, qui était revêtu de l'uniforme de capitaine de l'armée mexicaine, se tourna vers Harper et en anglais grommela « Mais qui êtes-vous, monsieur ?» C'est Mr. Harper, le propriétaire du wagon, expliqua le mécanicien. Nous venions à la rencontre du wagon. Ah oui, vous êtes Monsieur Harper. J'y comprends rien. Mais enfin, c'est pas vous qui nous avez fait abandonner dans le tunnel, je suppose. Comment abandonner dans le tunnel ? Hurla Harper hors de lui. Mais dites donc. « Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Et le wagon ? Où est le wagon ?»« Le wagon ? Il est loin, sans doute. Nous ?» Mais Harper n'écoutait plus. Fou de rage, il arracha la lampe des mains de l'officier mexicain et se mit à courir vers les deux fourgons. Il en eut bientôt fait le tour. Ils étaient seuls. Le wagon d'argent et la locomotive qui traînait le convoi avaient disparu. Tout froid, il tourna autour des deux fourgons comme s'il ne pouvait se résoudre à l'évidence. Il s'arrêta enfin et hurla. « Mécanicien, mécanicien, où êtes-vous ? Il faut poursuivre ces... »« Votre mécanicien, monsieur, a été poser des pétards derrière nous pour éviter qu'un autre train ne nous tamponne, » répondit le capitaine mexicain. « Mais qu'il revienne de suite, mécanicien !»
Oh, le coquin est d'accord avec les voleurs. D'abord, vous êtes tous d'accord. On ne fera pas croire que...
Por Dios, assez, Mr. Sharper, ou je vous brûle la cervelle.
Je réponds de mes hommes, ils sont honnêtes.
Nous sommes partis à 8 heures de Nogades sans incident, et au milieu de ce tunnel, nous avons tout à coup senti que nous ralentissions. Nous ne nous sommes pas émus. Mais nos wagons s'étant arrêtés, je sautais sur la voie afin de me rendre compte de ce qui arrivait. D'abord, je ne vis rien, j'entendis seulement le grondement produit par un autre train, ou ce que jugeait-elle. Hélas, c'était notre locomotive qui fuyait, emmenant le wagon d'argent, ainsi que je pus le constater à l'aide d'une lanterne. Et les voleurs, avant de partir, avaient eu la prévoyance de fixer des lanternes rouges à l'avant du premier fourgon. L'affaire est simple. Le mécanicien, le chauffeur de notre train, sont les voleurs.
James Sharper hocha la tête sans répondre. Ses dents claquaient.
Ah oui, dit-il enfin. Pendant près de 10 minutes, il resta ainsi prostré, en proie à un désespoir effrayant. Il frissonna en se sentant toucher le bras. C'était son mécanicien qui revenait. Il tenait d'une main une des lanternes de sa locomotive et de l'autre un paquet quadrangulaire enveloppé de papier blanc.
« J'ai pas eu à poser des pétards, monsieur, » dit-il. « Il y en avait déjà. J'ai même trouvé ce machin-là où il y a votre nom. On dirait une boîte de biscuits. Prenez garde, c'est peut-être une bombe. »
Sharper, hagard, se recula. Bravement, l'officier mexicain prit l'objet des mains du mécanicien. De son canif, il coupa la ficelle qui l'entourait et déploya le papier qu'il enveloppait sur lequel étaient tracés ces mots « Pour James Sharper de Magdalena ». Il découvrit ainsi une boîte en fer blanc ayant, comme l'avait deviné le mécanicien, contenu des biscuits, mais qui pour l'instant renfermait une large carte de visite.
« Donnez !» s'écria Sharper, qui avait suivi de l'œil le travail de l'officier mexicain.
Celui-ci, un pli méprisant aux lèvres, lui tendit la carte. Éclairé par la lanterne de la locomotive que tenait le mécanicien, le directeur de la Estrella de Plata approcha la carte de ses yeux. Ainsi qu'il l'appréhendait, il l'eut gravé. John Straubins, détective cambrioleur. Et au dos, ces quelques mots étaient écrits au crayon.
« Cher monsieur Sharper, j'espère qu'on vous remettra cette carte. J'ai les 22 000 kilos d'argent, ils sont en sûreté. Je les tiens à votre disposition contre la modeste somme de 400 000 $. Voyant quoi, je vous tiendrai quitte, et M. Flimmer aussi. C'est pour rien. L'argent a beaucoup haussé, et vous gagnez encore 50 000 $ à cet échange. J'attendrai une réponse dans le Galveston Herald de jeudi. Sinon, je considérerai que vous n'avez pas reçu cette carte.
John Straubins.
Oh, John Straubins, je le savais, hurla Sharper en agitant comme un démon. Mais on ne vole pas un wagon comme un simple banque-note.
Partons, partons, nous avons déjà trop tardé, il ne peut pas être loin.
En route, mécanicien, allons à Nogales, nous dégarfirons dans toutes les directions, il faudra bien qu'on passe voleur.
Et M. Sharper courut vers son wagon.
« Et nous ?» s'écria l'officier mexicain. « Croyez-vous que nous allons rester ici ? Vous allez permettre à mes hommes et à moi de monter dans votre wagon, ou vous ne nous laisserons pas partir. »«
Montez, faites ce que vous voulez, mais partons !» vociféra le directeur de la Estrella de Plata.
« Montez, mes garçons !» commanda l'officier.
Les soldats, qui déjà faisaient entendre de menaçants murmures, s'élancèrent à l'assaut du wagon-salon qu'ils emplirent. Silencieux et morne, Sharper alla s'asseoir dans un coin. Presque aussitôt, le train reprenait sa marche.
Il arriva à Nogales un peu après minuit. Sharper se précipita aussitôt au télégraphe et lança dans toutes les directions l'annonce du vol du wagon d'argent. Pendant toute la nuit, il resta écroulé, fiévreux et désespéré, dans un fauteuil de bureau du télégraphe, attendant en vain l'annonce de l'arrestation de John Sobins et du wagon dérobé. Rien. Nul n'avait vu ni wagon, ni locomotive. Jim Sharper, en proie à une rage épouvantable, se jeta dans le premier train qui passait à destination de San Francisco, où il arriva 3 jours plus tard. Il est inutile de décrire l'exaspération du directeur de la Estrella de Plata en lisant ces quelques lignes. Pour tout dire, il suffoquait. Car déjà, de tous côtés, on l'accusait d'être de connivence avec le mystérieux voleur d'argent. La hâte intempestive que Sharper avait mise à expédier les lingots, alors que le prix du métal était en baisse et que la révolution grondait dans la Sonora, son inexplicable obstination à aller au-devant du train amenant le wagon d'argent, tout cela, c'était louche. Pour réduire ces bruits à néant, il eût fallu que Sharper racontât ses démêlés avec John Sobins et Filmer. Il n'osait le faire, car il eût dû mentir et mentir. C'eût été s'attirer une réponse de John Sobins, et une verte réponse. Jim Sharper se tut donc. Et pour comble de malheur, comme il avait omis, par une négligence singulière et qui fut très commentée, d'assurer le wagon d'argent, il dut rembourser sur ses deniers les 15 000 kilos d'argent appartenant aux actionnaires et donner sa démission de directeur de la Estrella de Plata. Tout compte fait, il se trouva ruiné et suspect à tous. C'est alors qu'il regretta de n'avoir pas accepté les propositions de John Sobins. Ainsi qu'on l'a deviné, le détective cambrioleur, aidé de Renault, avait tout simplement profité du passage sous un tunnel du train qu'il conduisait pour dételer les 2 wagons contenant les soldats mexicains. Puis, au premier aiguillage, il avait rebroussé chemin et lancé sa machine sur la ligne Denver-Mexico jusqu'au pont du Rio San Antonio. Arrivé là, il avait déboutonné et enlevé un rail, et après avoir remis la locomotive en marche, sauté à terre, et 2 minutes plus tard, la lourde machine déraillait et s'engouffrait dans le fleuve, entraînant avec elle le wagon d'argent. John Sobins et Renault, après avoir reboulonné le rail cause du déraillement, avaient tranquillement gagné la station la plus proche, d'où ils avaient pris le premier train pour Galveston. Arrivé dans cette ville, John Sobins, n'ayant trouvé aucune réponse de Jim Sharper, lui avait écrit la lettre qui précède. De Galveston, le détective cambrioleur regagna San Francisco, où il retrouva le pauvre Filmer qui, resté à Nogales, avait attendu en vain le retour de son protecteur et l'avait cru mort en apprenant l'attaque du train par les soldats du général Lobo. John Sobins généreusement remit aussitôt à Filmer un chèque de 200 000 $ en disant « Oh, j'ai le wagon d'argent en entier. Il est en lieu sûr où personne ne me l'enlèvera. J'en ferai prendre le contenu en temps opportun. Vous voici remboursé. » C'est en vain que Filmer, curieux, voulut savoir ce qu'était devenu le précieux wagon. John Sobins le poussa doucement à la porte en lui donnant ce conseil. Restez honnête, mon jeune ami, car, croyez-moi, il est très difficile et il faut beaucoup de travail pour vivre en ne l'étant pas. Vous l'avez vu. Et M. Goldwyn, chef de la police de New York, reçut peu après ce simple mot. Ne cherchez plus l'auteur de l'incident du général Grant, c'est moi. John Sobins. Cela m'a rapporté 200 000 $. Convenez que cela valait bien la peine de retarder 2 heures un ferry boat. José Moselli.